BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, ça va chauffer au salon de l'agriculture, mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle, parce qu'on va voir tous les événements qui sont produits cette semaine et ceux qui vont se produire dans les semaines qui viennent et qui ont un impact sur l'économie, sur les placements et sur votre argent. Au sommaire aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce pays quand même qui réémerge, hein, on l'avait presque oublié, c'est le Japon, évidemment avec le Nikkei qui a retrouvé son plus haut niveau, il a fallu 34 ans quand même. La question macro, on a quand même l'impression que, alors qu'on parlait que de ça en début d'année dernière, que finalement le risque de récession, bah, c'est plus là. Alors est-ce qu'on a écarté définitivement les risques de récession? Et puis j'avais envie de me détendre avec une petite rubrique sur le chiffre de la semaine, c'est l'annonce des réductions des dépenses publiques par Bruno Le Maire. En tout cas, moi, ça m'a fait tordre de rire. On va voir si on va tous rigoler sur le plateau. En deuxième partie de l'émission, la bourse, les indices. Stop ou encore, avec une question quand même particulière. Hein. On a connu d'autres bulles. Est-ce qu'il y a une bulle tech? Est-ce qu'il y a une bulle de l'intelligence artificielle? Ça vaut le coup de se poser la question. Et comme on le sait, il peut y avoir une bulle et elle peut mettre des années à éclater. La question d'argent, ce sera évidemment le placement de la semaine, le top ou le flop de la semaine, un événement, je rappelle pour les invités qui n'ont pas, il y a des invités qui n'ont pas compris, un événement, une personnalité, une institution, donc pas forcément une valeur qui a fait l'actualité de la semaine, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. La gestion, c'est sa passion et elle la partage avec nous. Nathalie Pelleras, bonjour. Vous êtes directrice de la gestion de Four Points IM.
Très bien. Bel accent, très bien.
Vous êtes en forme?
En forme.
C'est l'économiste des signaux faibles. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai découvert. Ces indices discrets que personne ne voit et qui indiquent pourtant des changements ou des crises, lui, il les voit et en parle dans cette émission. Jean-François Robin, vous êtes directeur de la recherche de Natixis CIB. On vous attend sur les signaux faibles.
Eh bien, j'espère que ça sera des signaux forts, mais voilà.
Même s'il travaille chez Mirabeau, il ne perd jamais sa tête. Bien fait. Quand il s'agit de gestion, Frédéric Rosier, je fais toujours le même jeu de mots, mais j'aime bien. Vous êtes gérant chez Mirabeau AM.
Bonjour, c'est toujours le même. Effectivement.
Et vous avez toujours la tête sur les épaules.
Toujours.
Les taux d'intérêt en ce moment mènent le monde. Eh bien, elle mène les taux d'intérêt, donc elle mène le monde. Valentine Hénouz, vous êtes responsable de la stratégie taux chez Amundi Institute. Ça va bien?
Parfait, bonjour.
Tout le monde vous pose des questions en ce moment.
C'est tout le monde.
Bah ouais, parce que tout tourne autour des taux d'intérêt. C'est assez dingue d'ailleurs. Hein. J'ai rarement connu une période comme celle qu'on connaît aujourd'hui où on a l'impression que, voilà, tout est déterminant et tout, la bourse, l'économie, tout tourne autour des taux.
Et depuis un certain temps déjà. Hein.
Ouais,
depuis un certain temps.
Bon, il faut dire
avec
que
une jolie vol. Hein.
Voilà. Et il faut dire que pendant 10 ans, il ne s'est pas passé grand-chose sur les taux d'intérêt.
Pendant 10 ans, on pouvait garder la même recommandation et on était
les taux vont baisser, les taux vont baisser, les taux vont
et
baisser.
Et on cherche le rendement.
Allez, on va parler d'un pays qui étonne quand même, parce qu'on avait fini par l'oublier, c'est le Japon. Ben, le Japon fait un peu son comeback, alors je ne sais pas si on peut parler, Jean-François va nous en parler, mais de comeback économique, parce que finalement la croissance a toujours été là, molle certes, mais elle a toujours été là. C'est un pays qui a continué à se développer, mais dans la discrétion. Il faut dire que quand même, je me rappelle de décembre 89, quand le Nikkei était à son précédent record, on nous racontait la même chose qu'avec la Chine aujourd'hui, c'est-à-dire ils vont rattraper les États-Unis, ça va être incroyable, c'est un pays qui va tout casser, et puis... pendant trois décennies, plus rien. On a l'impression que le Japon émerge à nouveau. Alors, boursièrement, c'est clair, mais est-ce qu'économiquement, en fait, on ne se trompe pas d'analyse? En fait, il n'a jamais vraiment plongé.
Bah, c'est un pays qui est intéressant parce qu'effectivement, c'est toujours un petit peu l'underdog, le truc qu'on ne voit pas, mais qui est toujours là, qui est très constant parce que bah, c'est probablement le symbole de ce qu'on est tous en train de devenir. On est tous en train de devenir des économies japonaises. C'est une économie de démographie quand même très... Je reviens de Tokyo. Tokyo, c'est 1000 personnes de moins par jour. Quoi. Donc, c'est juste une ville. Donc, c'est vraiment un pays dont la démographie est...
Bah, 700-800 000 habitants en moins chaque année.
C'est un pays qui est déjà dans ce qui préfigure, c'est exactement ce qui est en train de se passer en Chine, qui a perdu 2 millions d'habitants. Donc le monde est en train de
se passer en Italie, qui va se passer en Espagne, qui va se passer en Allemagne,
et voilà, qui se passe partout en fait. On a toujours pensé nous que c'était la vieille Europe, mais voilà, le Japon montre que ça se passe là aussi. Ça se passe en Chine. Vous avez 15% de la population thaïlandaise qui a plus de 65 ans. C'est la définition d'un pays vieux. Donc en tout cas, le Japon montre qu'on peut finalement pas si mal s'en sortir que ça, hein, zéro chômage, assez innovant, le bien-être est là. Vous avez une économie, la productivité pas forcément très élevée parce qu'il y a du plein emploi, mais parce que globalement c'est la productivité totale, mais quand vous regardez la productivité des entreprises japonaises, ça reste quand même des grands leaders mondiaux. En plus de ça, le Japon, dans cette espèce de rebalancement, de rééquilibrage des chaînes de valeur mondiales, où tout le monde sort un peu de la Chine, hein, vous avez vu, ce serait presque mon chiffre de la semaine, hein, moins 80% les investissements en Chine l'année dernière, bah, qu'est-ce qui se passe? Les investissements, ils vont plutôt dans des alternatives, et on voit que ça va pas mal au Japon, typiquement, qui profite un peu de cette rebalancement des investissements étrangers en dehors de la Chine, en Asie. Et donc, c'est finalement un pays très intéressant qui, je trouve, est une alternative, et c'est un peu le futur du monde. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on croit en étant un pays vieux, quoi?
Et on croit en étant un pays vieux, c'est-à-dire on peut croître en étant un pays vieux, mais pour ça il faut augmenter la productivité, non? Parce que avec de moins en moins de bras, il faut. Bon là ils ont tapé dans le stock, des personnes âgées. Il y a de plus en plus de femmes qui travaillent, mais ils sont arrivés aux limites du système.
Oui, et puis
mais justement, il n'y a pas d'immigration.
Ça a été d'ailleurs ce qu'un peu a regardé la Chine en 2015 quand ils font leur plan quinquennal. C'était décennal en l'occurrence. La Chine, ils regardent ce que fait le Japon en disant mais nous on va bientôt vieillir aussi. Ouais. Et ce qu'a bien fait le Japon, c'est aussi faire de la robotisation. C'est ça. Là, ce que fait le Japon, qu'on voit mal la Chine faire, c'est qu'il y a un discours cette année du Premier ministre japonais qui est quand même très intéressant, qui dit le Japon s'ouvre à l'immigration. Donc ça, c'est aussi une révolution complètement dingue.
Mais ça se voit dans les chiffres, ça, ou pas?
Ça se voit pas encore dans les chiffres, mais typiquement, on voit bien ce qui se passe en Australie, hein, qui est une économie qui dépend de l'immigration pour sa production et sa productivité. Le Japon est en train peut-être de passer à la robotisation, à s'ouvrir un petit peu aux autres. Donc là aussi, c'est une énième révolution pour le Japon impérial.
C'est intéressant, ça. Le Japon, c'est un modèle. C'est notre modèle. On va tous se nipponiser, en fait.
On a un certain temps, mais je pense que le chiffre clé à retenir au Japon, c'est une population qui vieillit, 30% de la population a plus de 65 ans. Et ce qui est important de comprendre, c'est cette stagnation qu'on a eue ces dernières décennies au Japon, parce que c'est quand même un modèle économique de déflation. Après le choc qu'on a eu sur l'immobilier, sur le marché des actions, on a eu des baisses de prix qui ont entraîné des baisses sur les salaires, des baisses à l'embauche.
C'était les années 90 et les années 2000.
C'était les 30 dernières années. Ouais. Donc baisse des salaires, baisse de l'embauche, baisse du pouvoir d'achat, une demande de la part des ménages extrêmement morose, amplifiée par le vieillissement de la population. Dans ce contexte, les entreprises ont quand même peu investi, et faiblesse de l'investissement, faiblesse de l'activité ont renforcé cette stagnation des salaires. Donc on avait été vraiment ces 30 dernières années dans un environnement avec une demande faible.
Et une aussi. Ça change ça maintenant? C'est en train de changer ou pas spécialement? On s'excite parce qu'on voit le Nikkei remonter, mais fait derrière il n'y a rien.
Ce qu'on voit remonter là, c'est l'inflation. Ouais. On voit un retour de l'inflation et on se dit ah.
La marge. Hein.
Un retour quand même, soyons positifs, et un peu de hausse de salaire aussi depuis 2 ans, et on se dit ah, est-ce qu'on va pas revenir dans un cycle un peu plus vertueux avec hausse des salaires, un peu plus de demandes, investissement, productivité. Si on regarde l'inflation aujourd'hui au Japon, bien faible, on est d'accord. Puis elle vient de quoi? L'énergie, des prix alimentaires. Les prix alimentaires, c'est 40% de l'inflation importée. Donc c'est plutôt la faiblesse de la devise qui explique l'inflation alimentaire. Et ça pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Ou encore le tourisme. On voit sur l'inflation, elle vient un peu du tourisme. Évidemment, la faiblesse de la devise entraîne un afflux de touristes. Et ça, c'est quelque chose de positif pour l'économie japonaise, qui ne plaît pas forcément aux Japonais.
C'est un point intéressant, Jean-François. Est-ce que justement, le rebond de l'économie japonaise ne pourrait pas venir de ce qui l'a plombé pendant des années, à savoir le fait qu'il n'y avait pas d'augmentation de salaire?
Oui, alors encore une fois, on voit pas de grosse inflation des salaires. Non. D'ailleurs, aujourd'hui,
Pas d'augmentation de salaire significative, avec la tension sur le marché du travail.
Non, alors il y a de l'augmentation, mais on reste sur des niveaux qui seraient là où on voudrait atterrir en France, quoi. Faut raison garder. Le changement, un petit peu la révolution au Japon, elle est par rapport à la décennie précédente où on retrouve un petit peu cette dynamique-là. Ils sortent de la déflation. Hein. Ça fait quand même plusieurs décennies qu'on disait quand est-ce qu'ils sortiront de la déflation. Ça y est, ils en sortent. Mais vraiment, on ne peut pas dire que ce soit non plus un changement de paradigme. C'est un pays qui a très peu de croissance, vieillissant. Forcément, ce n'est pas un pays qui va vivre avec beaucoup d'inflation.
Mais vous dites, on peut fonctionner. C'est plutôt rassurant pour nous qui allons devenir tous vieux. Enfin, moi, je le suis déjà.
Non, et puis il y a un modèle.
On peut fonctionner avec des gens qui portent des couches.
C'est aussi un modèle très français parce que, effectivement, c'est 20% de la population française qui a plus de 65 ans, nous. Hein, donc, on n'est pas si loin que ça, finalement, dans les grandes masses. Mais surtout, il y a un modèle qui est assez proche de la France au Japon, c'est que c'est un modèle d'une économie qui investit énormément à l'étranger et qui rapatrie ses dividendes. Donc, il fait produire par l'étranger ce qu'elle...
Mais il y a une industrie quand même. Il y a une économie locale. Parce que Jean-Marc Daniel, il dit, en fait, ce sont que des rentiers. C'est pas vrai.
C'est faux.
Il ment. Jean-Marc Daniel ment.
Non, mais... Non mais regardez dans toutes les justement dans toute la technologie, regardez dans les voitures, dans les softbanks, etc. N'importe non, quoi. c'est pas quand même un pays. On peut pas dire que ce soit pas un pays industriel. C'est un pays qui est deux fois plus industriel que la France. Donc.
Mais les salaires réels, si on les regarde, ils sont toujours en négatif. Hein, donc c'est
hausses
salaires. Oui. Donc ces hausses de salaires sont pas non plus extrêmement importantes. Hein.
Allez, on passe tout de suite à la question macro de la semaine. On se demande en voyant l'ambiance dans ce plateau par rapport à celui de l'année dernière où on attendait une récession un peu partout. Si on a échappé à la récession après le soft landing, est-ce que l'économie mondiale va échapper à cette récession? Les États-Unis, on a l'impression que ça ralentit pas. Bon, l'Europe, c'est un peu mou. La Chine reste atone, mais on voit qu'il y a des nouvelles mesures. Avant de passer la parole aux économistes, du côté des entreprises, Frédéric, vous avez le sentiment que il y a un ralentissement? On voit les chiffres en Allemagne, on voit tout ça, non?
Non, honnêtement, non. On l'a vu, hein. Bon, les rares entreprises qui ont révisé un petit peu leur guidance, là, ça a été dramatique et a eu un impact sur les cours. Mais globalement, non. On a l'impression d'avoir une sorte de dichotomie entre le réel et l'entreprise.
Et d'habitude, c'est le contraire.
Mais là, je vois pas de signaux vraiment de faiblesse, une adaptation. Alors, en gros, hein, pour les entreprises qui sont exposées à la Chine, oui. Clairement, il y a eu un discours. Je pense à L'Oréal qui, voilà.
Mais pour celles qui sont exposées à l'Europe, aux États-Unis,
pour l'instant, pas... ça tient. C'est des commentaires plutôt globalement rassurants, même s'ils actent quand même que là, il n'y a pas une dynamique folle. Hein, mais
Nathalie, vous sentez ce ralentissement cette...
Non, c'est justement plutôt rassurant parce que du côté de l'entreprise, on voit sur les publications, plus de 80% étaient au-dessus de ce qui était attendu. En tout cas, des bonnes nouvelles partout, de partout de l'Atlantique. C'est pas que américain. Et on voit, d'ailleurs, on le voit aussi quand on parlait du Japon, l'entreprise japonaise. Bon, il y a eu la dévaluation du yen qui les a aidés aussi beaucoup, mais en fait, il y a eu énormément de travail qui a été fait ces dernières années sur les marges d'entreprise, sur les coûts.
Et on voit qu'aujourd'hui, bien gérées, en fait.
Elles sont très, très bien gérées, en fait, par rapport à ce que c'était il y a plus de 15 ans. En fait, il y a vraiment eu un changement au niveau du management et elles se portent très bien. Et d'ailleurs, c'est bien, elles sont beaucoup moins vulnérables, du coup, à la macroéconomie.
Ah bah c'est bien. Et du côté de la macroéconomie, vous avez l'impression que les entreprises sont un peu déconnectées de la réalité. Est-ce qu'on a échappé à la récession? Est-ce que c'est fini? On tourne la page?
Bah, je pense qu'il y a
on a quelques récessions techniques, mais ça ira pas plus loin.
Moi, le décalage, je le vois plus entre le ressenti des Français que la réalité macroéconomique, qui est plus proche de ce qui se passe dans l'entreprise. Quand on me demande est-ce que le chômage va monter beaucoup en France, la plupart des entreprises que je vois, là, quand on fait des interventions auprès des grandes entreprises, des ETI et des PME, c'est plutôt une problématique de recrutement. Toujours aujourd'hui, vous avez les qui arrivent, etc. Tout le monde cherche des vigies, des restaurateurs, du tourisme. Bon. Donc je ne crois pas que l'économie fondamentalement française soit du tout dans une phase de récession.
Et le reste du monde?
Nos indicateurs avancés, juste sur la France, nous on est plutôt sur du 0,2 sur les deux premiers trimestres. Donc on va quand même être assez proche des 1%. C'est tout à fait possible, en tout cas. Ça peut
c'est jouable. Derrière.
C'est tout à fait jouable. C'est pas vraiment, encore une fois, l'inflation baisse, donc la consommation peut redémarrer. Les États-Unis, pour moi, ça ralentit, mais là aussi, on échappe à la récession. Hein. On n'est pas dans le landing, on parle de... Ils atterrissent même pas. Si, ils atterrissent quand même. Ils
vont prendre ça ralentit quand même ou pas?
Ah ben oui, ça ralentit. Pour moi, il y a les deux moteurs de l'économie américaine sont quand même en train un peu de s'éteindre, ou en tout cas d'être moins forts qu'année dernière. C'était la consommation publique.
Ouais, mais on disait ça l'année dernière. Hein.
Oui, alors nous, on était la seule banque à dire qu'il n'y aurait pas de récession en 2023 aux États-Unis. Donc, ça, cocorico. Okay, bon, on disait 0,5 de croissance, il y en a eu 2,5, donc on s'est planté comme le reste. Mais c'est vrai qu'il y a une résilience de l'économie américaine qui est importante. Mais ce qui a expliqué l'économie américaine, c'est la consommation. C'est 60% du PIB. L'année dernière, ils avaient 2,2 trillions en commençant l'année 2023 d'épargne excédentaire. Ils n'ont plus rien. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent créer beaucoup plus de consommation, sauf à ce qu'on crée beaucoup d'emplois.
C'est ça.
On distribue d'autres salaires.
Exactement.
Or, aujourd'hui, la dynamique qu'on voit, on va parler de l'IA peut-être tout à l'heure, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même les premiers peut-être effets de ça, avec des plans de licenciement dans le gaming, dans la tech, dans la logistique, même chez les retailers.
Vous êtes en train de nous dire que là, on commence à voir dans la macroéconomie l'impact de l'intelligence artificielle.
Je pense qu'on peut commencer à avoir un petit peu certain nombre de choses qui commencent à venir, Mais de toute façon, encore une fois, je ne pense pas que l'IA détruira de l'emploi. Il va remplacer des emplois qui disparaissent par le vieillissement qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. Aujourd'hui, au Japon, une fois, c'est un pays où on vend plus de couches pour adultes que pour enfants. Donc, heureusement qu'on va vers de la robotisation et du remplacement des chauffeurs de taxi seront probablement autonomes.
Pardon. Vous savez de quoi vous parlez.
Exactement, j'ai des enfants.
Ah bon, non, ça me rassure.
Alors,
on a échappé à la récession, tout va bien?
Moi, je trouve...
Le sourire?
bon, si on regarde les dernières données économiques, elles surprennent positivement, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très positif. En Europe, on flirte avec une récession et la croissance, elle tient avec l'emploi et les services. Aux États-Unis, on a même une réaccélération, hein, si on regarde sur le marché de l'emploi, les salaires. Mais bon, ce que je pense que ce qui est très important et ce qui a permis de faire baisser très significativement ce risque de récession qui nous effrayait tous l'année dernière, c'est cette baisse de l'inflation grâce à la baisse du prix du pétrole et à la fin des perturbations sur les chaînes de production qui a permis à Powell d'adopter à la fin de l'année dernière un discours beaucoup plus accommodant, le fameux pivot de la Fed. Et ça, ce qui a permis sur les marchés d'avoir des conditions de financement beaucoup plus accommodantes. Et si notre crainte l'année dernière, c'était tous les besoins de refinancement qui allaient tomber cette année, comment est-ce que ça allait se passer? On s'est dit, attention, les corporates, comment est-ce qu'ils vont faire pour financer toute cette dette? Les États en zone euro, comment est-ce qu'ils vont faire pour refinancer toute cette dette? Alors que même les banques centrales sont toujours en train de réduire leur bilan. Et là, ce qu'on voit depuis le début de l'année sur les marchés, c'est des marchés primaires sur les marchés de la dette qui sont extrêmement forts et un appétit en face des investisseurs qui est lui aussi extrêmement fort parce qu'aujourd'hui le leitmotiv des investisseurs sur le fixed income c'est il faut capturer ces taux.
C'est le marché des taux.
Excusez-moi, le marché des taux, il faut capturer ces taux avant que les banques centrales ne baissent leurs taux. Donc on a beaucoup d'offres et en face on a beaucoup de demandes et ça c'est ce qui quand même réduit très fortement le risque d'avoir un ralentissement. Après je pense qu'on pourrait faire une dichotomie parce que
très
ici on passe toutes d'entreprises qui se financent sur les marchés. Et je pense que la situation peut être un peu différente pour toutes les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas accès au financement de marché. Donc il y a peut-être une dichotomie qu'on n'est pas forcément sensible parce que nous, on regarde évidemment les entreprises qui ont accès au financement de marché. Il y a peut-être une dichotomie qui est en train de se dessiner.
Non. Ah non, moi je suis un peu plus mitigé que ça parce que nous on voit quand même justement des incidents de paiement sur les cartes de paiement, sur les autos, sur l'immobilier. Hein, on voit des choses sur l'immobilier commercial américain qui est vraiment pas terminé. Donc on a notamment
Terminé, mais qui a zéro impact. On voit rien. Il y a un impact sur la valorisation des foncières, des machins. Mais je veux dire, on n'a pas vu une banque tomber encore pour.
Je me prononcerai pas tout de suite là-dessus. Elles tomberont peut-être pas forcément aux États-Unis. Il y a des grandes tensions sur certaines banques régionales allemandes typiquement, mais il y a aussi des tensions sur l'immobilier commercial américain. C'est 70% de ça qui est financé par les banques régionales qui n'ont pas.
Mais aucun impact pour l'instant visible.
Oui, mais je pense que ça, une des raisons pour lesquelles la Fed va baisser ses taux, c'est justement qu'attention, il y a quand même beaucoup de tensions. Hein. Les conditions financières se tendent quand même assez fortement. D'ailleurs, on parle beaucoup d'immobilier qui rebondirait. Les prix remontent, mais en revanche, c'est très très compliqué. Il y a beaucoup de défauts dans l'immobilier commercial qui fait un peu question quand même.
La probabilité de risque de récession a baissé, mais je suis d'accord qu'il reste quand même des vulnérabilités sur l'économie américaine et qu'on voit sur certains segments, les segments les plus vulnérables, l'impact des hausses de taux. Hein. Cartes de crédit, pré-auto, et sur les entreprises les plus fragiles, on voit l'impact des hausses de taux aujourd'hui.
Hein. Le taux de défaut, il était à 1,5, il est passé
à 5,5.
Hein,
exactement.
Je vais pouvoir passer au prochain thème. Ou
sur les segments les plus vulnérables.
Vous voulez que je vous laisse?
Faites comme chez vous, Marc.
Allez, le chiffre de la semaine, j'avais envie d'en parler parce que j'ai trouvé que c'était un sketch digne de l'Actor Studio. Bruno Le Maire a pris son air très sérieux pour répéter, attention, le quoi qu'il en coûte en France, c'est terminé, on va faire 10 milliards d'économies. Évidemment, je ne pense pas qu'on va réduire nos dépenses publiques. Sa performance, comme je l'ai dit, était digne des meilleurs acteurs. Est-ce que vous pensez vraiment que la France va enfin réduire ses dépenses publiques, Jean-François Robin? En sachant que je considère que notre situation est une situation très compliquée, même si on a la chance d'avoir l'euro et l'Allemagne qui garantit notre dette.
D'abord, je trouve que dans l'ampleur, par rapport au montant des dépenses publiques françaises, c'est un petit peu ridicule. Après, dans le timing, honnêtement, je trouve que aller réduire les dépenses publiques au moment où on ralentit, c'est complètement contracyclique. On dirait une banque centrale européenne un peu qui est en train de pas baisser ses taux alors que l'économie a ralenti. Donc là, c'est pareil. En fait, c'est hyper contracyclique d'aller réduire les dépenses publiques.
Sauf que c'est de la flûte. On sait très bien qu'il y a 10 milliards de réductions et puis que derrière,
oui,
400 millions et puis 200 millions.
Voilà, et puis encore une fois, quand on regarde la somme des dépenses, regardez les dépenses sociales, c'est 800 milliards, c'est 30% du PIB. Bon, 10 milliards là-dessus, c'est l'épaisseur du trait et honnêtement, sans vouloir tirer sur l'ambulance, c'est un peu le début de la com, mais surtout aller faire ça dans la prime rénov ou la formation typiquement, c'est pas là qu'il faut gérer ça. Il y a tellement de réservoirs de dépenses publiques où on voit qu'on n'est quand même pas les plus efficaces dorénavant du monde. Qu'on pourrait peut-être aller chercher ça ailleurs. Qu'il faille aller chercher des
réformes
des
dépenses publiques,
on est tous d'accord. Ouais. Aller faire 10 milliards comme ça à ce moment-là, et comme ça, je trouve que là, il faut prendre un petit peu plus de temps.
Valentine, vous ne trouvez pas qu'il y a une injustice à ce qu'on soit aussi cancre et qu'on emprunte à des taux aussi bas?
Bah, non, il n'y a pas eu...
Comment répondre sans me griller?
Non, il n'y a pas une injustice. On a d'autres fondamentaux qui sont très bons. Pourquoi on
ah ouais, c'est quoi la balance commerciale?
Le niveau de la dette,
le déficit, c'est quoi? Donnez-moi un fondamental à part l'épargne des ménages. Bon, qu'est-ce qu'on a de bon?
On a une croissance qui
à
tient.
Crédit.
À crédit, avec une consommation qui tient en France. Non, moi, ce qui me...
Vous cherchez un poste dans un cabinet ministériel ou quoi?
Ce qui m'inquiète, non, franchement, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas tant la quantité des dépenses que la nature des dépenses. Et la nature des dépenses qui sont en général en Europe faites pour soutenir la consommation et non pas soutenir l'investissement. Et quand on voit la stratégie aujourd'hui violente et qui est menée aujourd'hui aux États-Unis pour subventionner l'investissement des entreprises et comme on voit à quel point ça fonctionne et que les entreprises aujourd'hui aux États-Unis investissent, je me dis qu'on devrait peut-être suivre un modèle similaire en Europe, c'est-à-dire arrêter de soutenir de façon prononcer la conso, mais peut-être beaucoup plus soutenir l'investissement.
Il n'y a aucune chance. Peut-être en Allemagne, ils vont le faire, parce qu'ils n'auront pas le choix. Mais nous, on ne va jamais le faire.
Déjà, en Allemagne, ils ont cette marge de manœuvre de le faire.
Oui,
et ils doivent le faire.
Cette marge de manœuvre, sauf que d'un point de vue constitutionnel, ils n'y arrivent pas.
Il faut qu'ils le fassent aujourd'hui.
Il faut qu'ils le fassent.
Leur business model, aujourd'hui, ne fonctionne plus.
Pour le coup, c'est quand même, pardon, juste...
Allez-y.
C'est France 2030, tout ça. Je trouve qu'on est un petit peu...
Franchement, il n'y a rien là-dedans.
Ben oui, mais il y a quand même plusieurs dizaines de milliards d'investissements qui ont été faits sur du structurel, sur de la transition énergétique, sur la transition digitale. Tout n'est pas acheté. Après, je suis complètement d'accord. C'est que l'exemple en ce moment, c'est qu'on voit bien l'accélération de l'investissement dans les grandes transitions, dans les méga-trends, que ce soit aux États-Unis, en Chine. Et nous, on joue un petit peu d'abord isolé en Europe, avec l'Allemagne et la France qui font chacun des choses totalement à l'opposé. C'est un petit peu dommage. On est vraiment dans un moment de l'investissement.
Exactement.
Donc on est dans le moment de l'investissement. Donc il faut le faire.
Fait pas. Nathalie, vous qui analysez des boîtes toute la journée, si c'est la boîte France, vous dites pas si c'était une des boîtes dans lesquelles on investissait, il faudrait virer les gens qui la gèrent, non?
Je ne sais pas pourquoi tout le monde est gêné, pourtant je pose des questions. Non, mais parce qu'en fait, je pense que sur l'économie, en fait, c'est totalement dissocié. Honnêtement, aujourd'hui, aucune boîte, même française, même présente sur le sol français, avec peu de chiffre d'affaires ou de résultats à l'international, se fiche un peu du contexte macroéconomique en France et des investissements en remboursement de dette, parce que c'est pas ça qui va vraiment driver leurs résultats. C'est la demande.
Quand même, non?
Oui, mais ce qui est important pour eux, c'est la demande locale, en fait.
Ouais.
C'est la consommation. Donc, indirectement, oui, ça a joué, mais le temps de la transition, en fait, des mesures gouvernementales françaises, franco-françaises.
Ils ont d'autres soucis, quoi.
Exactement, en fait. Et la macro globale est beaucoup plus importante. Ce que font les banques centrales européennes
est
beaucoup plus importante qu'une décision politique sur ce qui pourrait avoir un impact fort. C'est une décision vraiment sur de l'investissement,
ouais,
exactement.
Ce qu'on est en train de dire.
Maintenant, c'est décidé au niveau européen, c'est plus décidé au niveau local pour que ça ait réellement cet impact-là. Donc, heureusement, en fait, la santé d'entreprise française est totalement indépendante de la politique franco-française.
Frédéric, vous partagez cet avis?
Je verrai le directeur financier, ça c'est sûr. Non, il y a un problème, parce que l'euro de dette qu'on avait il y a 20 ans ne vaut pas l'euro de dette qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, c'était le débat qu'on avait sur la nature de la dette. Est-ce que c'est de la dette qui est effectivement...
Pour l'investissement
ou pas. Et il y a 20 ans, on avait des routes, on avait des ponts, on avait des infrastructures qui étaient parmi les plus performantes au monde. Force est de constater, on a des dettes supérieures, et donc l'euro aujourd'hui d'investissement n'est plus de la même qualité. Il ne sert même plus à entretenir finalement l'existant. Et donc le problème, c'est que la dette qu'on a, elle est de mauvaise qualité par rapport à la dette qu'on avait par le passé. C'est
mais
ça,
on
le
a
plus
une
gênant.
Chance extraordinaire, c'est qu'on ne la paye pas très cher, en fait. C'est ça.
Oui, et alors le problème, c'est qu'il va falloir... Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais la charge de la dette avec la remontée des taux d'intérêt, là, les 10 milliards, c'est quasiment le coût de la charge de la dette supplémentaire avec la hausse des taux d'intérêt.
Alors, première année, c'est 2 milliards et demi, 10 milliards, voilà, on l'a au bout d'une petite, un peu moins de 10
ans. C'est 2 milliards et demi la première année, la remontée des
taux
d'intérêt.
Un point de taux, c'est 2,5 la première année, et après ça se diffuse, parce qu'encore une fois, il faut que les dettes arrivent à maturité, c'est un calcul un petit peu plus, précis comme ça, mais ça fait ça, 2,5. Mais par contre, on peut monter, à la fin de la décennie, on peut monter à 50 milliards.
Ouais.
Donc le budget, premier budget de l'État, ce sera le budget de remboursement de la dette au marché, exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux États-Unis, où le but, les intérêts de la dette sont en train de dépasser la dépense militaire.
L'avantage, c'est que la maturité, on l'a plutôt allongée quand même.
Je vous demande en tout cas très gentil. gentil avec les gens qui gèrent notre argent. On se retrouve en deuxième partie de l'émission pour parler de la bourse, pour se poser la question de savoir s'il y a une bulle tech ou une bulle IA, le placement de la semaine, le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Ah bon ? Mais il y a un débat avec moi. Et on avait continué le débat en début d'émission. Je leur disais qu'ils étaient gênés par certaines des questions. Pourtant, je posais des questions qui étaient vraiment totalement objectives. Hein, Valentine, tout à l'heure, je ne vous ai pas senti à l'aise, hein, Valentine et Nouz.
Non, mais bon, il y a quand même la BCE, même si aujourd'hui elle réduit son bilan, qui continue de détenir une part importante de la dette française. Et ça continue de jouer un rôle. Et ça va continuer de jouer un rôle au cours des prochaines années. Hein.
Et on continue cette deuxième partie de l'émission avec Valentine et Nouz, avec Frédéric Rosier, avec Jean-François Robin et avec Nathalie Pelleras. Et on parle tout de suite des marchés. La bourse, top ou encore? Bon, bah, depuis le début de l'année, le CAC quasiment 5%, S&P 6 presque 7%, le Nasdaq 7%, l'Eurostock 7%, le Nikkei, on parlait du Japon, quasiment 17% de hausse. Donc on l'a dit, on le redit parce que c'est un événement pour les vieux comme moi. Décembre 89, 39 000 ou 38 000 et quelques sur le Nikkei. Ça y est, on les a dépassés, il a fallu 34 ans. Un peu moins si on compte les dividendes, c'était en 2021. Mais quand même, quand on dit que l'investissement, les gérants me disent ici, il faut toujours investir dans les actions. Mais il faut voir à long terme, là, il fallait vraiment voir à long terme. Heureusement que les Japonais sont devenus centenaires parce qu'ils ont pu voir à nouveau le Nikkei au prix auquel ils avaient acheté. Les résultats de Nvidia ont été spectaculaires. On peut dire que c'est ça qui drive en ce moment un peu la frénésie spéculative sur le marché. Est-ce qu'on a une bulle, Nathalie Pelleras, ou pas ?
Alors, au sens de celle de 2000, non. Parce que celle des années 2000, il faut bien se souvenir, pour les vieux comme nous qui s'en souviennent bien, c'est qu'on était sur des multiples de pertes. Les grosses valeurs sur lesquelles on imaginait que ça allait devenir les énormes leaders de demain avec un Internet qui allait... Certes, on avait raison sur l'Internet, ouais. Mais l'impact sur les comptes, on avait la majorité de ces sociétés qui étaient avec des pertes et des lourdes pertes et on n'envisageait pas de résultats positifs avant 3, 4, 5 ans. Alors qu'aujourd'hui... On prend l'exemple d'un Nvidia. Non seulement on a quand même des résultats largement positifs, on a des marges, la marge brute Nvidia, c'est 75%. C'est-à-dire qu'en fait, on est au-delà de certaines marges dans le luxe. Et en plus, c'est eux qui maîtrisent en fait leur offre, parce qu'il y a tellement de demandes et l'incapacité à pouvoir fournir en face qu'ils sont sélectifs. Donc, et la majeure partie des valeurs tech aujourd'hui qui elles sont bénéficiaires. Donc un petit multiple, Nvidia, si on continue la croissance de résultats comme elle est annoncée, hein, et comme il la confirme chaque année sur 2025, dans un an et demi, ça ne se paye que 33 fois.
Avec une croissance comme
celle-ci, c'est alors évidemment il faut tenir ce 33 fois, c'est en tenant compte des perspectives de croissance déjà annoncées. Mais au vu des chiffres publiés là, au vu de la demande, il n'y a aucune raison que ça se tarisse. Donc l'intelligence artificielle et la tech, tout ce qui est lié à un phénomène, une tendance longue, c'est-à-dire que l'IA de plus en plus demandée, certes c'est important, et que les puces aussi, on en a besoin. Donc. Et l'autre côté, la transition énergétique, il ne faut pas oublier, ça paraît comme ça, rien à voir, mais ça a tout à voir. En fait, Nvidia, dans le propre de ce qui fait sa force, c'est la capacité à avoir beaucoup de calculs dans une toute petite superficie. Ce qui veut dire que dans les serveurs, on peut faire avec un serveur ce qu'on faisait avec 10. Et donc, en termes de data center, et donc de climatisation, parce qu'il faut que ça soit climatisé, et donc d'impact environnemental, c'est
monstrueux. Donc on est déjà dans la transition...
En fait, il y a les deux phénomènes qui jouent.
Ce sera moins pire. Ce sera pas mieux.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a...
continuer à rouler en 4x4, quoi.
Oui, alors.
Un moteur CQFD. Voilà une bonne nouvelle.
Voilà, pour compenser. Je ne sais pas combien de data centers il faut. Mais en tout cas, il y a ce double phénomène. Donc, ces tendances longues-là, cette demande, et donc le fait qu'ils ont la capacité à avoir des marges toujours en croissance et de les maintenir, ça justifie qu'il n'y ait pas totalement cette bulle. Parce que
donc, il n'y a pas bulle.
Non, pour moi, il n'y a pas bulle.
Sur la bourse.
Sur les gros.
D'accord. Bourse en général, vous êtes optimiste ?
Alors, en fait, je pense qu'il y aura une phase de consolidation qui est logique.
On le dit performances...
clairement, elle n'est pas... Non, c'est pas fait. C'est 2 mois, Il s'est passé deux mois et les marchés en globalité, en moyenne, 7% de performance. Alors si on prend le S&P 500 encore plus, et mais globalement qu'il y ait une phase de consolidation et de repos là-dessus, ce serait normal, d'autant que pendant un mois, il n'y aura plus de publication. Au niveau macro, au niveau banque centrale, il n'y aura rien non plus d'annoncé. La géopolitique, ce n'est pas encore merveilleux, hein, et ça malheureusement. Donc qu'il y ait cette phase de prise de bénéfices, ce serait logique, de consolidation.
Mais ça ne remet pas en question...
Non, parce qu'il y a un fondamental quand même qui est fort, c'est que vous prenez la croissance des résultats annoncés sur la 2023 et les perspectives sur 2024, cette performance globalement des marchés de plumes, elle est cohérente par rapport à ces perspectives-là.
Donc pas d'inquiétude, même s'il peut y avoir une consolidation. Frédéric Rosier, est-ce qu'il y a une bulle sur l'intelligence artificielle et est-ce que vous êtes positif sur la bourse ?
Quand il y a des valeurs qui prennent 500, 600, 1000% aux États-Unis, ça serait facile de dire qu'il y a une bulle, mais malheureusement, c'est pas le cas.
Ou heureusement.
Aujourd'hui, parce qu'on parle de multiples en PEG, par exemple, hein, si on rapporte justement ces multiples de valorisation par rapport à la croissance, on est très très bas sur l'ensemble du secteur. Il y a des chiffres assez hallucinants, parce que pourquoi ça ne baisse pas et pourquoi on n'est pas dans la situation de 2000? Prenez le share buyback par exemple d'Apple depuis 5 ans.
Leur achat d'actions,
c'est 400, 450 milliards. Elle pourrait se croquer deux leaders du CAC 40 rien qu'avec le rachat par action. Elles ont une tonne de cash. Ces entreprises ont une tonne de cash, elles sont valorisées correctement, surtout si on anticipe une baisse des taux. Et sur les marchés, moi je donne un rendez-vous, ça fait maintenant des mois que je dis que le marché va monter jusqu'à mars, mais je donne aujourd'hui le seul rendez-vous que j'ai, c'est le 20 mars.
Pourquoi ?
Parce que le vrai risque, c'est plus sur les résultats. Les résultats, c'est bon et on voit que c'est solide. Le vrai résultat, c'est l'erreur de politique monétaire et le fait que le marché anticipe clairement encore des baisses de taux et que c'est franchement pas évident aux États-Unis. Et le problème de la cherté d'une action, c'est son rapport par rapport au taux sans risque. Et je pense que là, après trois mois, alors le cycle de hausse qu'on a connu, par exemple, sur le marché parisien, je crois que ça date depuis les années 70, hein, ce cycle de hausse. Je pense que le vrai déclencheur de la correction de marché et de cette consolidation, on verra de l'ampleur, c'est le 20 mars à 20h03, comme ça c'est facile. C'est-à-dire au moment où la Fed.
Mais il n'y a plus personne qui croit que la Fed va baisser ses taux.
Si. On y croit.
Mais non, parce que j'ai vu le pourcentage de gens qui sont positionnés là-dessus.
C'est pas du tout le discours qu'il y aura derrière.
Ah, d'accord.
Sur les projections, parce que le marché aujourd'hui, il est plutôt juin, entre mai, voilà, juin et après septembre. Voilà. Donc clairement, le marché, on oublie ça. D'ailleurs, on a ajusté et le marché a continué à monter, hein, d'ailleurs. Donc je pense que le marché va être déçu par rapport à ça, parce qu'effectivement, il y a eu un léger rebond de l'inflation en janvier, et ça peut provoquer, à mon avis, une source de consolidation relativement importante à ce moment.
Valentine, j'ai remarqué ce que dit Frédéric, c'est qu'en fait, pour la première fois, on a eu cette correction en disant, bon, ben, finalement, ça ne sera pas mars, ça sera avril-mai. Et les marchés, ils ont continué à progresser, poussés par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de dire, peut-être que, et là, à contre-courant de ce que vous dites, est-ce que peut-être les anticipations sur les taux, c'est moins important pour les marchés en ce moment ?
C'est essentiel.
Bah non, ça n'a pas été le cas.
Je vais m'expliquer, c'est essentiel.
Expliquez-vous.
Je m'explique. Là, on a juste diminué le nombre de baisses de taux qu'on anticipait pour cette année. Maintenant, on est plus sur un scénario.
Bah oui.
Et on a repoussé. Mais on n'a pas remis en cause la trajectoire de désinflation et la trajectoire de baisse de taux. Et ça, pour moi, c'est ce qui porte les marchés, et je partage cet avis, c'est ce qui porte les marchés aujourd'hui. Que les investisseurs anticipent une inflation qui baisse et une Fed qui se mette à baisser les taux. Alors, peut-être pas autant que ce qu'ils espéraient à la fin de l'année dernière, mais on n'a pas changé ce scénario. Et si le marché commence à changer ce scénario à cause d'une inflation qui est beaucoup plus forte, oui, ça peut entraîner une correction. Mais qu'on soit sur 3 ou 4 baisses de taux cette année, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la Fed va baisser ses taux cette année et on est confiant dans la trajectoire de l'inflation.
Mais moi, je suis très confiant. Vous n'êtes pas confiant de vous ?
C'est moins évident. Là, si on regarde sur les trois derniers mois, on est quand même sur une réaccélération de l'inflation.
Un palier.
Et une réaccélération aussi au niveau des salaires.
Vous êtes confiant sur la baisse de l'inflation?
Parce que je vais essayer de prendre le contre-pied de mes camarades, sinon c'est pas rigolo. Non, mais il y a plein de raisons pour penser que ça peut continuer. Hein. Les résultats Nvidia, c'est un peu différent parce qu'ils gagnent de l'argent, mais j'y reviendrai. Mais quand même, on n'a jamais eu de l'histoire, même dans la bulle dot-com des années 2000, jamais dans l'histoire, hein, jamais on a eu une telle concentration des performances sur un si petit nombre de valeurs. Et jamais on a eu une différence de cherté relative entre les actions américaines et le reste du monde aussi élevée. Donc il y a quand même un sujet, c'est que ça s'est jamais vu. Et ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, hein, mais quand même, il y a une petite question, et on parlait pour boucler ce qu'on disait tout à l'heure sur le Nikkei qui a mis 34 ans à se retrouver. Il y a 34 ans, en 89, on se disait que toutes ces valeurs japonaises allaient toutes l'emporter et que c'était magnifique. Lors de la bulle Internet aux États-Unis, Amazon, ça valait 1. C'était un penny stock. Donc il y a aussi des histoires où on pensait que ça allait tout emporter ou ça peut s'écrouler. Donc attention, dans le monde de la tech, hein, quand vous regardez à chaque fois le monde de la tech, il y a toujours un moment hype. Et est-ce qu'on n'est pas un petit peu là-dedans? Moi, où je suis très impressionné évidemment par les résultats d'Nvidia, mais on en discutait tout à l'heure en antenne, quand même, on n'est sûrement pas au pic parce qu'il n'y a pas de concurrence qui peut arriver tout de suite pour Nvidia. Donc probablement que 2024-2025 sera assez bon. Mais quand vous faites 80% du marché, la grande probabilité, c'est de voir quand même, et ils le disent eux-mêmes dans toutes leurs conférences, les Intel, les Amazon, les Google, qu'eux-mêmes vont se mettre à faire du produit Nvidia in-house, chez eux, en propre. Et donc je pense quand même que l'avenir d'Nvidia, il est un petit peu moins rose que le disent les multiples aujourd'hui. Donc je trouve que la concentration de performance et de cherté relative des États-Unis me rendrait un peu plus prudente sur les US par rapport au reste du monde.
Intéressant. On va justement se poser la question de savoir, la question d'argent de la semaine, toujours la même. Quel est le placement de la semaine? Je me tourne vers les géants. Actions, obligations, or, bitcoin, cash, secteur, pays. Nathalie Pelleras, où est-ce que je mets mon argent, moi?
Je pense que pour l'instant, à court terme, encore aux États-Unis. En fait, parce que
quand on en action,
parce que alors la partie, il faut toujours, alors j'ai toujours le même point depuis le début de l'année, c'est que même dans un portefeuille dynamique, on est aujourd'hui à 75% action et 25% en taux. Donc ce qui est quand même pas par crainte en disant où tout va très mal, c'est parce que justement ces taux rapportent et que ça permet de diversifier un petit peu le portefeuille et l'exposition. Et après, dans l'exposition géographique de cela, compte tenu du poids des États-Unis au niveau mondial et compte tenu du fait qu'on si ça reste
même
la locomotive.
Si Jean-François dit, on a un différentiel qui est spectaculaire par rapport à l'Europe.
En fait, je pense qu'il ne faut pas rester en dehors de l'Europe. Ouais. C'est juste que le driver de l'économie mondiale et ce qui fait là où tous les producteurs sont pointés et qui va aussi driver aussi la croissance qu'on a derrière, parce que nos entreprises européennes vendent beaucoup aussi aux États-Unis, donc il y a une corrélation entre tout ça. Donc il faut être diversifié. Moi, j'ai encore un quart de produit taux et sur la partie action, une majeure partie aux États-Unis et le reste, mais avec un peu d'émergent aussi.
Alors je vais rester sur la même thématique, mais sur l'AI, je suis tout à fait d'accord. Hein, sur Nvidia, on va avoir un partage
de la richesse. Où est-ce que je place mon argent, moi?
Alors, moi, je pense qu'on n'a pas vu encore la hausse sur les applications, finalement, de l'AI. Parce que là, on parle finalement de l'infrastructure, mais aujourd'hui, au quotidien, c'est quoi l'AI pour vous? Quels sont les gagnants? Donc, moi, je jouerais plutôt aujourd'hui sur la partie software, même hardware, PC.
C'est ce que font les gens déjà, Microsoft, c'est du software.
Ou du service, mais plus derrière, par exemple, du Adobe, par exemple, tout ce qui est service aux entreprises qui permet finalement d'augmenter la productivité via
l'AI. C'est ça votre placement de la semaine?
Ouais, je pense que là, il y a encore beaucoup à gagner sur toutes ces thématiques, notamment software AI.
Vous dites on a l'infrastructure entre guillemets.
Oui, on a payé en gros dans la quête de l'or, on a payé les fabricants de pelles. Donc maintenant on va regarder un peu qui va avoir de l'or à la fin. Donc l'or aujourd'hui c'est à mon avis à venir
les usages,
donc ce qu'on appelle le CRM notamment toute la partie logicielle qui aide les entreprises.
Mais vous restez quand même les deux très actions. Hein.
Toujours. Oui. Et US, bien sûr.
Et US. Allez, on passe tout de suite au top ou flop de la semaine. Je rappelle, donc un événement, une personnalité, une institution qui ont fait un top ou un flop cette semaine. Nathalie Pelleras.
C'était une valeur, mais c'est exprès. Ça pouvait être un événement, j'avais bien compris quand même. Hein. Mais avoir Air Liquide qui, sur une séance, prend 8%, qui, sur la semaine, prend 10%.
Air Liquide, donc. Air Liquide, c'est ça votre top.
Exactement, c'est les résultats d'Air Liquide, en fait. Parce que On était habitué à voir LVMH qui tirait le CAC 40. On a vu que l'automobile pouvait tirer le CAC 40. On avait rarement vu Air Liquide tirer le CAC 40. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Sur la semaine, Air Liquide gagne plus qu'NVIDIA, parce qu'NVIDIA avait un peu baissé un peu en amont des résultats. Donc les résultats d'Air Liquide ont été presque mieux accueillis en fait que ceux de NVIDIA. Et c'est surtout qu'il y a eu un nouveau plan chez Air Liquide qui était un peu un plan d'amélioration des marges sur 2 ans. Et ils ont 2 ans d'avance. En gros, tout se passe très bien. On est à un plus haut sur Air Liquide. Et je pense que c'était vraiment un signe montré en fait que il n'y a pas que l'intelligence artificielle qui va bien. Tous les pans de l'économie aussi se portent bien. Quand je reprends l'exemple des constructeurs automobiles qui ont des publications très bonnes, alors avec des PE très très bas, hein. Mais Air Liquide, dans ces gaz industriels, on n'est pas habitué à avoir des croissances de retour sur investissement et de marge de 8% et des doublements d'objectifs de marge aussi. Et donc, je pense que c'est à saluer parce que c'est une vieille boîte. Là, on est dans l'ancienne économie, mais qui s'adapte très bien à la nouvelle économie, la transition énergétique. Et je voulais saluer ce résultat.
Et puis, il y avait un petit...
Ça, c'est pour les boursiers.
Mais allez-y, expliquez quand même.
Parce qu'en bourse, tout cote avec des codes mnémoniques. Donc, Total, c'était FP, et c'est passé FP pour Paris. Et Air Liquide, son code mnémonique, c'est AI, comme Artificial Intelligence. Et donc, historiquement, voilà, un précurseur.
C'est peut-être pour ça, il y a peut-être des gens qui confondent et qui continuent à l'acheter en pensant que c'est une boîte d'intelligence artificielle. Jean-François, c'est quoi votre top ou flop de la semaine?
Alors, le mot de la semaine, ça aurait été The Crazy SOB, hein, c'est ce qu'a dit Biden.
Poutine.
Voilà, de Poutine. Mais je, voilà, on ne prendrait pas de telles précautions d'usage en France, on dirait fils de péripatéticienne. Mais non, ce ne serait pas ça. Moi, ce qui m'a frappé cette semaine, c'est 23 euros. C'est le coût du gaz aujourd'hui. Hein, le TTF hein, s'échange à 23 euros. Ça semble un petit peu comme ça éloigné de notre quotidien, mais ça ne l'est pas du tout, au contraire, puisque, en fait, là, on fête les 2 ans, entre guillemets.
C'est notre sujet principal. Il y a 2 ans.
Exactement. Et ce qui m'étonne, c'est que voilà, enfin, ce qui je trouvais assez peur, c'est qu'on a complètement oublié ça. On en a il y a 2 ans de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le gaz était monté à 340 euros le TTF. On est aujourd'hui à 23. Donc,
c'est dingue.
Voilà, on a divisé des prix par près de 15. Et vous avez quand même quelque chose d'assez frappant, c'est que l'énergie est plutôt un sujet. C'était quasiment les 2/3 à un moment de l'inflation européenne. Ça, c'est plutôt un sujet. On est au milieu de l'hiver. On a des stocks qui n'ont jamais été aussi pleins de gaz en Europe. On est à 65 de stocks de gaz. En moyenne, c'est plutôt 49 à cette période de l'année. Et donc, on va sortir de l'hiver 2024. Et je me souviens de toutes ces discussions.
Ouais.
2024, on ne s'en sortira jamais sans les Russes. Mais là, même 2025, on peut être très confiant. Et c'est même plus grave que ça. C'est qu'on peut penser qu'en 2025, il y a plein de nouveaux terminaux de gazéification, plein de nouvelles capacités de LNG qui sont en train d'arriver en Europe. Donc, peut-être, on n'aura pas besoin. Parce qu'aujourd'hui, en France, on consomme 22...
Donc, on est presque en surcapacité.
Et oui, probablement. C'est ce que je suis en train de dire. Et donc, les prix d'électricité, de l'énergie, finalement, aujourd'hui, et peut-être que le pic, justement, de la demande, parce que c'est quand même une énergie carboné aujourd'hui, hein. C'est comme ça vient beaucoup plus vite que prévu. C'est un petit peu ce qui est en train de se dessiner,
génial,
et plus vite que prévu. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose de très intéressant sur l'inflation et peut-être sur les politiques monétaires, c'est que la composante énergie, elle est en train de disparaître complètement des radars.
Et peut-être aussi passionnant sur la capacité de l'économie à se réajuster par elle-même sans intervention.
On parlait en début d'émission de l'homme malade de l'Europe, de l'Allemagne, hein, mais finalement, l'Allemagne qui dépendait à 55% de son gaz, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Allemands? Ils accélèrent le renouvelable, ils sont à 55% d'électricité. Sur tout 2023, hein, l'ensemble de 2023, 55% d'énergie renouvelable. Donc c'est quand même assez impressionnant. On bascule vers des énergies très très différentes et ça sort complètement du scope des banques centrales.
Voilà. Frédéric,
le top, la Chine. Ah la oui Chine, ouais, alors on ne l'a pas mis souvent en top, mais ouais, c'est le Shenzhen. On a un rebond des marchés chinois, 9 séances de hausse.
C'est un top boursier, pas c'est un top économique.
Mais aussi parce que on est en période, donc on vient de passer le nouvel an chinois, donc l'année du dragon de bois. L'année du dragon est faste pour l'économie chinoise, avec un rebond des naissances d'ailleurs pour l'année du
dragon de bois.
On va voir s'il a la gueule de bois ou pas. Mais en tout cas, c'est un rebond de quasiment 8%. Sur les indices un peu plus larges chinois, c'est 10%. Rebond du voyage intérieur en Chine, de la consommation. Attention, c'est peut-être
le démarrage
de quelque chose aidé par la consommation de reposition.
En même temps, ils interdisent les ventes. Hein, donc
ils interdisent aussi les ventes à découvert. Ça aide un peu.
C'est bizarre qu'ils fassent ça. D'habitude, ils ne sont pas du tout dirigistes. Top ou flop pour vous?
Alors, ça va être flop. Hein, et c'est pour rebondir sur les prix de l'énergie, les prix du gaz, qui certes baissent. Mais si on regarde aujourd'hui, cette semaine, on a eu les chiffres des investissements des banques, des entreprises allemandes aux États-Unis et en Chine. Et on voit qu'ils sont en train d'augmenter très, très fortement sur les US, x2 l'année dernière sur les investissements des entreprises allemandes sur les États-Unis. On est passé à
dans
15.
Dans quel secteur?
Surtout les secteurs où on a des énergies qui sont gourmands en énergie. Et on voit que l'activité énergie intensive en Allemagne n'est absolument pas revenue sur ses niveaux d'avant-crise. Et que les entreprises allemandes, aujourd'hui, sont en train d'investir beaucoup plus aux États-Unis où il y a un marché qui est domestique qui est plus fort, des conditions fiscales qui sont beaucoup plus attractives et un peu plus en Chine. Mais ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que les montants d'investissement sont en train de basculer de la Chine vers les États-Unis.
Intéressant. Allez, maintenant, le moment que vous attendez tous, je demande... Bah oui. Ah oui, il y a le top 3, j'avais oublié. Le top 3 de la semaine. Alors, Virginie Robert, 10,4%. Pascal Sévy, 9,1%. Pierre Chang, 7,3%. Et maintenant, le moment, ça c'est bon. Le moment que vous attendiez tous, j'attends un jingle qui fait peur pour le choix des gérants. Nathalie Pellera, j'enlève mes lunettes. Je vous donne votre portefeuille. La France vous regarde. Kering, on garde.
On garde.
LVMH, on regarde.
Bien sûr.
Vous êtes très luxe. Hein. Téléperformance.
Oui, on garde aussi.
Booking.
Oui, on garde malgré, je pense qu'elle baissait.
Non, depuis que vous nous l'avez
dit.
Depuis
non,
le début
non.
de l'année, on est à 10%.
Ah oui, mais.
Veralia.
On garde aussi.
Qu'est-ce qu'on achète?
Eh bien, on achète, on va rester indirectement dans le luxe et dans les boissons, donc pas d'intelligence artificielle, avec Diageo.
Oui.
Diageo, en fait, c'est un des leaders mondiaux.
C'est un peu l'intelligence artificielle, parce que quand on bossera de moins en moins, il faudra se bourrer la gueule.
Exactement. C'est les valeurs Covid pour oublier.
Ah, les paradis artificiels.
Voilà, c'est ça. Bah oui. Avec modération, bien sûr.
On peut pas remplacer par des puces. Ça, c'est du concret. Donc, c'est des marques connues. C'est Johnny Walker, c'est la vodka Smirnoff. Donc, c'est présent sur tous les segments.
Ça m'étonne pas trop de vous, en fait, le choix de valeur.
Oui, hein. C'est lié un peu à LVMH aussi, en fait, indirectement. Et. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le décès du directeur général il y a un an, qui était assez soudain. Et puis, il y a eu un ralentissement de la consommation aux États-Unis. Il y a eu des problèmes de stockage en Amérique latine. Donc, le titre a baissé de 30% depuis un peu plus d'un an. Alors qu'aujourd'hui, en fait, ces problèmes, je pense, sont bien intégrés dans le cours. Il y a une bonne dynamique sur les marges. C'est plutôt bien géré. Et vers les 3000 pence, oui, il faut y aller.
Allez, on y va. Jingle, s'il vous plaît. Frédéric Rosier, la France vous regarde. Prosus.
On garde.
Schneider.
On garde.
Compass.
On garde.
Vous avez hésité?
Ouais, j'hésite.
Amadeus.
On vend.
McDonald's.
On garde.
Nestlé.
On garde.
Vivendi.
On garde.
Et Givaudan.
On vend.
Ah oui, pourquoi?
On commence à faire un super parcours là depuis deux mois. On arrive sur des multiples qui sont relativement élevés, donc on va jouer la sagesse sur ce titre.
Advanced Micro Device.
Belle performance, je garde bien sûr.
23,4% depuis le début de l'année. Alphabet.
Je garde.
Qu'est-ce qu'on achète?
Alors, je vais rester dans la thématique AI, mais l'AI, il faut que ça soit finalement accessible à tout le monde, parce que l'AI, pour l'instant, c'est quelque chose d'assez superficiel, en tout cas pour beaucoup. Et donc, l'AI va arriver dans nos PC. Et elle viendra dans nos PC, notamment via Windows 12, donc une release qui arrivera plutôt 2025. Et Windows 12 rendra obsolète la plupart des ordinateurs, au moins un tiers des ordinateurs dans le monde.
Donc vous voulez dire que ça va repartir là?
Et donc ce marché qui est en énorme souffrance, qui avait rebondi avec le Covid, avec le télétravail, on estime qu'il y a à peu près 400 millions de PC qui seront au rebut à cause justement de l'arrivée de ces nouveaux, cette release Windows et Windows 12. Donc j'allais chercher les composants du PC. Donc il y a deux composants. Il y a le CPU, le microprocesseur, donc celui qui a la plus grosse partie du business, c'est Intel.
Qu'est-ce que ça a fait Intel d'ailleurs? Ça suit cette folie?
Non, ça a souffert en relatif, parce qu'on est encore dans ce monde de forte baisse. On doit être à un tiers du marché, moins 30% quasiment sur le PC depuis deux ans. Donc c'est un marché qui est en énorme souffrance.
Qui reste plombé.
Oui, qui reste plombé. Et l'autre, c'est Micron. Micron, c'est ce qu'on appelle de la mémoire flash. Donc la mémoire flash, c'est la mémoire disponible qui rend efficace finalement vos ordinateurs. Et lorsque vous avez besoin d'intelligence artificielle, vous allez solliciter cette mémoire flash. Aujourd'hui, vos PC, vous êtes à peu près sur ce qu'on appelle des barrettes de RAM de 8 ou de 16 en giga.
Bien sûr.
On va plutôt être entre évidemment 16 et 32, voilà, a priori sur les nouvelles versions de Windows, en tout cas pour donner toute la puissance de l'intelligence artificielle.
Ça, c'est Micron.
Donc, ouais. Donc, on estime que le marché du PC devrait rebondir entre 8 et 10%, alors qu'on vient quand même de séquences assez délicates. Ça, donc, ça, je pense qu'on va avoir un repricing assez important, que ce soit sur les composants, mais également les fabricants.
Il ne faut pas jouer les fabricants de PC?
Bah, c'est compliqué aujourd'hui. Vous avez les asiatiques, ouais, les nouveaux. Vous avez.
C'est une commodité. Ça, quoi, ça.
Non, honnêtement, il faut la valeur ajoutée est quand même plus à l'intérieur des composants plutôt que sur le produit fini.
Très bien, merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci donc à tous ces invités. Ils ont été très bons aujourd'hui. Invités de marque, c'était pas comme la semaine dernière. Franchement, vous étiez très mauvais. On se retrouve là. Non, je plaisante. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous réécouter en podcast, en replay, comme vous voulez. Vous pouvez consommer comme vous voulez, avec l'image, sans l'image, avec le son, sans le son, et sur toutes les plateformes. Et on bat des records.